La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 34e émission de la Semaine de l'Art avec notre invité aujourd'hui, Harry Bellet, journaliste au service culture du Monde. Bonjour Harry.
Bonjour.
Vous allez nous parler de métier de journaliste au Monde, de la culture au Monde, mais également de votre vie passée, des différentes polémiques ou pas, des différentes affaires en cours. Peut-être nous ne sommes pas toujours d'ailleurs d'accord, donc ça serait intéressant peut-être d'en débattre avec vous. Mais voilà, d'abord, vous êtes donc journaliste au Monde depuis longtemps.
J'ai dû écrire mon premier article dans le Monde en 1992.
Donc ça fait 22 ans, si je calcule bien. Oui. Mais ce n'était pas le début de votre vie professionnelle. Vous avez travaillé avant. Vous êtes historien de l'art. Vous êtes un historien de l'art, journaliste. Vous n'avez pas fait de formation de journaliste.
Non, j'ai fait une formation d'historien de l'art. On s'est rendu compte au Monde qu'il était plus rapide de former un historien d'art au journalisme que l'inverse. J'ai effectivement suivi des études, tout ce qu'il y a de plus classique, à l'école du Louvre d'abord, à l'université de Paris ensuite. J'ai fait une maîtrise remarquée, puisque une des premières à utiliser l'informatique, ce qui aujourd'hui me laisse rêveur, sur une revue d'art des années 50, et puis j'étais un peu spécialisé sur cette période-là, oui.
Quand vous dites utiliser l'informatique pour taper à la place d'une machine,
c'est pas du tout. J'étais persuadé qu'on pouvait faire de l'histoire de l'art de manière quantitative, ce qui était complètement débile, mais on a le droit d'être jeune. Et donc je travaillais sur les statistiques.
Et donc vous avez... Et
l'informatique est très précieuse.
Donc vous êtes un pionnier, parce que c'est l'histoire de l'art
On était deux, ça va vous faire plaisir. Le deuxième, c'est Marc Castellini.
Oui, Marc Castellini, que j'inviterai peut-être un jour ici, mais ça sera peut-être moins détendu, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ces expositions. D'ailleurs, on pourra en parler, parce que vous aimez bien, c'est les expositions de la Pinacothèque. Donc c'est peut-être une chose dont nous pourrons parler tout à l'heure.
Pas toutes. Certaines.
Très bien. Ensuite, donc, vous êtes rentré à Beaubourg tout de suite.
J'étais devenu par force, par accident, spécialiste des années 50, et à l'époque, ça n'intéressait personne. Il se trouve que le Centre Pompidou faisait une exposition sur le sujet, et j'ai bénéficié de ce qu'on appelait un contrat de recherche, une sorte je ne sais pas quelle monstruosité, entre l'université et le Centre Pompidou, et j'ai travaillé, oui, j'ai commencé à faire de la recherche pour le Centre Pompidou au sein de l'université, mais implanté au Centre Pompidou.
Vous n'avez jamais voulu être conservateur?
Pourquoi faire?
Je ne sais pas.
Non. Le temps que j'ai passé à l'école du Louvre m'a dissuadé de l'envie d'être conservateur.
Pourquoi?
À cause de mes professeurs.
Qui n'étaient pas bons?
Ils étaient excellents. Excellent, mais c'était pas comme ça que je concevais l'histoire de l'art. Je vous parle d'une époque où les professeurs de l'école du Louvre, également conservateurs, c'était Christiane Desroches-Noblecourt, c'était Geoffroy aux Antiquités Nationales, c'était des gens vraiment très compétents, mais qui concevaient l'histoire de l'art d'une manière qui m'échappait. C'est que je ne pouvais pas imaginer que l'histoire de l'art, c'était apprendre par cœur l'histoire des collections. Je ne pouvais pas imaginer que ça se limitait à ça. Quand je suis passé ensuite à l'université, que j'ai découvert qu'on avait une forme d'histoire de l'art où on pouvait réfléchir, où on pouvait poser des questions, où l'histoire de l'art était importante, certes, mais n'était importante que dans la mesure où elle dévoilait une forme d'histoire des mentalités, j'ai compris que c'était pour moi.
Mais je suis d'accord avec vous, l'histoire de l'art n'empêche pas de réfléchir. Vous pensez vraiment que dans les musées, on ne peut pas réfléchir?
Je vous parle des années 80.
D'accord.
À l'époque, non.
D'accord. Bon, j'espère que ça a un petit peu changé, parce que...
Je l'espère aussi.
Et donc, à Beaubourg, vous avez pu réfléchir?
Ah bon, on n'avait pas le temps, on travaillait trop. c'est amusant, parce que je sais que vous êtes très, très proche d'Anne Baldassari.
C'est un euphémisme, je pense.
Et on est entré au Centre Pompidou à un an ou deux de distance. Et c'était une époque où travailler 12 heures par jour, c'était assez normal. Parce qu'on préparait des expositions, parce que...
Je pense qu'il y a des conservateurs qui travaillent encore 12 heures par jour, hein, vous rassure.
Ben j'en suis heureux.
J'en connais.
J'en suis heureux, non, mais c'est la moyenne, hein, mi-temps. Mais voilà, c'était... La réflexion, elle était possible parce que quand on travaille au Centre Pompidou ou ailleurs, j'imagine dans un musée, les projets sont lancés sur 2-3 ans. Et donc, sur 2-3 ans, en dehors du travail pur de recherche, on a un peu le temps de réfléchir.
Et donc, cette exposition donc, s'appelait comment, les années 50 ?
Ça s'appelait les années 50, c'était dirigé par Daniel Abadie. C'était l'époque où le Centre Pompidou était dirigé, ça a été très peu de temps, mais il a été formidable, par Bernard Cesson, qui était également conservateur, enfin, directeur du musée de Saint-Étienne. Et on a commencé à revisiter une époque qui était totalement, mais totalement ignorée, ou partie en désuétude. Et ça a été un travail vraiment passionnant, parce qu'on travaillait bon, sur les archives premières, Princeps, et on a fait, je crois, à l'époque, un boulot de défrichement qui n'intéressera peut-être personne, mais qui, pour moi, étudiant à l'époque, était formidable.
Et l'exposition a eu lieu quelle année exactement ?
89.
89. Donc entre 89 et 92, vous êtes resté encore à Beaubourg et vous avez continué ?
Je suis rentré en 87 pour faire l'expo. Et j'y suis resté jusqu'en 97.
Ah non, d'accord, 97.
97, 92, j'ai commencé mes premiers articles dans le monde.
D'accord, vous étiez parallèlement...
Oui,
d'accord.
Vous savez que la fonction publique permet à ses employés de faire deux ou trois petites choses en dehors, dont écrire, évidemment, en respectant le devoir de réserve. Et j'ai fait mes cinq premières années au monde... en même temps que le Centre Pompidou.
Donc vous ne pouvez pas écrire sur le Centre Pompidou, c'est d'accord. Et pour Centre Pompidou, quelles autres expositions avez-vous fait ?
J'ai beaucoup travaillé sur les catalogues, en fait. C'était ça, mon truc. Je me souviens...
Les catalogues des collections ?
Pas seulement, il y en a eu.
Vous êtes revenu, finalement, sur l'histoire des collections. Il fallait connaître les collections, un petit peu ce que vous avez fui
oui,
à l'école du Louvre.
Oui, mais connaître les collections, là, c'était différent. Je me souviens d'une demande qui avait été faite à Serge Lemoine de faire le catalogue des collections d'art concret, abstrait, géométrique du Centre Pompidou, qui n'était pas connu pour ça. J'ai passé des heures formidables le week-end à ouvrir les armoires des réserves à Serge Lemoine, qui à l'époque était conservateur du musée de Grenoble. Et en pensant que j'allais l'aider, en fait, je l'aidais à ouvrir les armoires, parce que dès qu'on lui sortait un manuscrit ou une revue sortie en Tchécoslovaquie à deux exemplaires en 1920, oui, la maquette, c'est de machin, la photo, c'est de bidule, j'avais rien à faire pour l'aider, j'étais juste là pour... Mais j'ai appris énormément, oui.
Et donc, vous êtes rentré au monde comment ? Par hasard ?
Vous savez, les petits garçons, ils veulent être pompiers, ils veulent être pilotes. Je ne connais pas de petit garçon qui va déclarer spontanément qu'il veut être critique d'art.
Peut-être pas, non, mais pourquoi ? Comment ça s'est passé ? Quelqu'un vous a... c'est venu un peu tard, l'histoire de l'art est venue un peu tard, et l'envie d'être critique d'art...
Alors moi, l'histoire de l'art est venue très tôt.
Oui.
Très, très tôt. J'ai déjà raconté cette histoire, mais bon...
Les auditeurs ne l'ont peut-être pas entendu.
France Culture, c'est très peu écouté.
Très peu, beaucoup moins de la tribune de l'art.
Oui, et en fait, c'est quand j'étais jeune garçon, je vivais à Rouen, Seine inférieure à l'époque, non, déjà Seine-Maritime, et au musée de Rouen, où une professeure de français m'avait emmené, il y a un tableau d'Évariste Luminet.
Bon artiste qu'on pourrait qualifier de pompier du 19e siècle. Mais pompier n'est pas un bon terme, c'est pas...
C'est votre choix, juste à côté, il y a un grand de la Croix qui est sublime.
Non, mais pompier, je n'aime pas ce terme-là, en fait.
Et puis peut-être pas très loin, il y a aussi un Ingres qui n'est pas totalement mauvais.
Et rappelez-nous le sujet de ce tableau de Évariste Luminet du musée de Rouen.
Alors précisément, c'est ça qui m'a déterminé, ça s'appelle « Les énervés de Jumièges ».
Bien sûr.
Deux messieurs allongés sur un radeau qui vont dériver au fil de la Seine. Et moi, j'avais quoi, 8, 9 ans, 10 ans, et on monte ces deux bons hommes allongés, dont un avait, toujours d'ailleurs, au pied une chaussette avec un trou dedans au niveau du gros orteil, ce qui était à peu près mon cas à l'époque, et donc on s'en proche, et les énerver, mais pourquoi énerver ? Ils sont allongés, ils ne bougent pas, pourquoi énerver ? Et le jour où on se pose la question pourquoi, on est foutu. On devient historien de l'art.
Et donc, rappelez-nous la réponse, parce que je ne me rappelle plus pourquoi énervé, d'ailleurs.
Ces deux jeunes gens se sont révoltés contre leur papa, lequel était roi local. Leur papa a fait son boulot de roi, c'est-à-dire qu'il ne les a pas tués, car c'est un bon papa, mais il leur a fait brûler les jarrets. Et puis, il ne pouvait pas les tuer, donc il les a laissés aux mains du destin, et ils ont dérivé sur la Seine jusqu'à Jumièges, l'abbaye, où ils ont été recueillis, et où ils sont enfin devenus de bons fils. Ça se termine bien, ils se réconcilient à la fin.
Donc ils se réconcilient avec leur père qui leur a brûlé les jarrets.
Voilà.
Bon. Donc les énervés de Jumièges, donc, vous vous posez la question pourquoi.
Pourquoi ? Mais le jour où on se pose la question pourquoi, on est foutu.
Donc on commence à réfléchir.
Je sais pas, mais en tout cas on commence à regarder.
Et donc vous êtes devenu historien d'art. Ensuite vous êtes rentré à Beaubourg et ensuite vous êtes rentré au Monde tout en faisant travaillant également à Beaubourg. Et le Monde, quelqu'un vous avez postulé, quelqu'un vous a
cherché? Non, pas du tout. C'est encore une fois, je dis, on n'a pas vocation à devenir critique d'art ou journaliste peut-être, mais je n'ai pas de formation en journalisme. J'ai vraiment été formé à l'histoire. C'est un hasard. J'ai rencontré une dame, Geneviève Barrette, à qui je rends hommage. Geneviève me demande ce que je fais dans la vie. Je lui raconte mon sujet de thèse de l'époque, les peintres américains à Paris après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça tombait bien parce que la FIAC aller en quelques mois après présenter les galeries américaines. Donc elle me demande un premier papier sur les galeries, l'histoire des galeries américaines. Genre, vous imaginez un papier dans Le Monde, 15 jours de sueur, d'angoisse. Je fais le papier, il est un peu retaillé, je dois dire. voilà. Mais il paraît. Et puis je passe à autre chose. Je continue ma thèse. Et quelques mois après, elle me retéléphone et me demande à nouveau. Et je dis, non, je ne veux pas faire de papier dans Le Monde, ce n'est pas ma vocation. Et elle me dit, je ne te demande pas un papier dans Le Monde, je dis, est-ce que tu veux prendre ma place? En fait, elle avait besoin de quelqu'un pour la remplacer, elle partait un an d'année sabbatique et elle pensait gentiment à moi, donc voilà.
Et donc vous êtes arrivé comme ça, et donc vous avez pu, c'était un mi-temps, parce que beaucoup de personnes, je sais que j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui était reçu au concours d'observateur et qui est journaliste, et qui se dit, on ne peut pas faire les deux.
Non, on ne peut pas faire les deux. Non, on ne peut pas faire les deux. Le jour où Le Monde m'a embauché, en 97, j'ai cessé toutes mes collaborations.
Mais vous pouvez quand même faire des piges, en fait, on peut faire les deux.
Quand on est fonctionnaire, on peut faire les piges, avec l'autorisation, bien sûr, de sa hiérarchie, encore que, je crois que même que le code du travail peut vous permettre de vous passer l'autorisation de la hiérarchie, si tant est que vous respectiez votre devoir de réserve, mais l'inverse n'est pas possible. Je ne peux pas dire au patron du Monde qui m'a embauché, excuse-moi, je ne peux pas rendre compte de telle expo, j'ai fait le catalogue.
Bien sûr. Voilà.
Donc le jour où ils m'ont embauché définitivement, donc après 5 ans d'essai quand même, j'ai arrêté toute collaboration extérieure.
Alors, ce qui était curieux au Monde, j'ai découvert au Monde en vous connaissant que, au Monde, finalement, les postes, on peut changer, on peut être rédacteur en chef, redevenir journaliste, redevenir rédacteur en chef, et que ça se passe très bien.
Oui,
ce qui est assez rare dans des entreprises. En général, quand quelqu'un est chef, il n'aime pas redevenir sous-chef, et pourtant ça se passe bien. Donc vous avez vous-même été pendant un moment rédacteur en chef adjoint des pages culture.
J'étais chef adjoint du service culturel.
Service culturel. Et donc vous connaissez la politique culturelle des pages du Monde. Et moi je me pose des fois la question, Le Monde est un excellent journal et qui parle beaucoup d'art.
J'en suis d'accord.
Et nous sommes d'accord. Mais des fois je regrette qu'il n'y ait pas plus d'art ancien par rapport à l'art contemporain, ou même parfois on voit beaucoup de choses vraiment, comment dire, du genre hip-hop et des choses comme ça. Et puis des fois, des expositions importantes ne sont pas chroniquées. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Pourquoi?
Avez-vous des exemples d'expositions importantes qui ne soient pas chroniquées?
Non, je n'en ai pas comme ça. J'aurais dû mieux travailler cette interview, mais j'en ai vu, oui, effectivement.
Non, je ne pense pas. Il y a plusieurs aspects qui se présentent quand on est un quotidien généraliste. D'abord, c'est qu'on est en concurrence avec nos amis du théâtre, nos amis de la danse.
Voilà.
Amis
du cinéma, c'est très différent, effectivement, et que nous n'avons des journaux spécialisés
une
uniquement
place extensible.
À.
Ouais. Ensuite, il y a aussi des éléments qui sont purement journalistiques, qui sont le respect de l'actualité. Il est évident qu'un grand mort, comme on les appelle malheureusement, ou une exposition au Grand Palais, ou une exposition au Louvre, ou une exposition. Voilà, ce seront nécessairement chroniqués.
Alors peut-être que je ne me suis pas exprimé, des expositions importantes, mais pas forcément parisiennes. Alors, c'est peut-être ça. Actuellement, il y a dans les musées de province, comme il y a toujours, des expositions que je considère comme importantes, peut-être moins importantes que des expositions à Paris, mais parfois plus intéressantes. Je pense par exemple, alors je ne sais pas, en plus là je vais vous donner des noms d'expositions qui ont peut-être été chroniquées, je n'ai pas bien suivi ces dernières semaines. Est-ce que Benjamin Constant à Toulouse, est-ce qu'on en a parlé dans Le Monde? Je ne crois pas.
Pas encore.
Est-ce que de Baponsan on en a parlé dans Le Monde? Vous voyez, c'est ce genre d'expositions qui ont peut-être besoin aussi du monde.
Vous me posez la question, je reviens de Lens, j'y étais ce matin. J'ai passé le week-end, alors vous allez me dire, c'est...
On y viendra sur
Lens. Mais il pleuvait, j'étais à Saint-Paul-de-Vence. La province, on la néglige pas, c'est pas du tout notre propos. Le fait est que même si Paris et la province n'est plus le désert français, le fait est que les grandes expositions ont tendance quand même à être localisées ici. Mais attendez, ça s'appelle Le Monde. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui sont présents partout, ou nous-mêmes, on est amenés à aller partout. J'ai accumulé plus de miles que je ne saurais jamais utiliser. On a le besoin, dans les champs qui sont les nôtres, d'aller là où ça se passe. Et là où ça se passe, là, c'est autre chose. On a évidemment l'actualité. On ne peut pas ne pas parler de l'exposition de Jeff Koons, quoi qu'on en dise au Centre Pompidou. On ne peut pas ne pas parler de l'exposition de Hokusai, quoi qu'on en dise au Grand Palais, mais on se doit aussi d'aller chercher ailleurs, voir ce qui se passe, parce que notre travail, c'est pas tant de faire l'histoire de l'art. Là, maintenant, je suis devenu journaliste, mon travail, c'est aussi de rendre compte d'une actualité qui est devenue mondiale, et qui n'est pas nécessairement celle qu'on attend.
Alors, par rapport aux expositions, vous êtes plutôt spécialiste d'art 20e siècle, comme on l'a vu, mais vous traitez aussi l'art ancien. Comment se répartissent les sujets?
La définition d'un journaliste, c'est qu'on est apte à tout et bon à rien. J'adore ça. J'adore cette idée. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, au sein du quotidien, qui nous occupons d'art, nous avons tous une formation d'historien d'art, peu ou prou. Et les sujets se répartissent en fonction des envies, des disponibilités. Voilà.
Donc,
c'est aussi simple que ça. Il y a une époque où on les jouait au flipper.
Ah bon?
Oui.
Et vous gagniez?
Non, c'était Geneviève Barrette elle était redoutable.
Bon. Est-ce qu'il y a. Le Monde est un journal qui fait à la fois de l'investigation, mais également engagé sur un certain nombre, ou pas. En tout cas, dans la culture, est-ce qu'il y a une ligne directrice d'engagement, ou finalement, pas trop. Par exemple, je pense au patrimoine. Alors, ce n'est pas vous qui pourrez répondre à la question, c'est juste une remarque que j'ai, que je vous ferai. Il faudrait que j'invite le principal intéressé, mais j'ai remarqué, par exemple, que sur des sujets un petit peu polémiques actuellement, comme la Tour Triangle, Le Monde avait plutôt pris parti pour la Tour Triangle, ce qui est tout à fait respectable. Nous-mêmes, à la Tribune de l'Art, on prend parti contre la Tour Triangle, donc c'est du journalisme engagé. Mais est-ce que c'est un choix du journaliste? Est-ce que c'est un choix de la rédaction? Comment ça se passe?
Non, c'est un choix du journaliste. C'est un choix du journaliste.
On parle de Frédéric Edelman, qui a surtout écrit la Tour Triangle.
Oui, mais je pourrais vous parler de ceux qui ont écrit contre la Tour Triangle, la pyramide du Louvre.
Oui. C'était André Fermigé, mais qui n'était pas resté à l'époque, justement, qui n'était pas resté au Louvre. Au Louvre, pardon, qui n'est pas resté au Monde. Oui. J'ai connu André Fermigé à l'époque, et il n'était pas resté. Alors, je ne sais pas si c'était parti de...
C'est un choix du journaliste, et c'est un choix qu'il assume.
Mm-hmm. C'est un choix, oui.
Bien sûr. Mais c'est normal. Cela dit...
Mais parce qu'il pouvait, est-ce qu'à l'époque, il pouvait écrire contre la pyramide dans le Monde, ou non? Ou est-ce que c'est pour ça?
Non, il a fait une erreur. Il est mort, et c'est... pas bien d'en parler comme ça, il peut pas. Il a fait un choix qu'il aurait dû faire dans le journal. Vous savez qu'on a une caractéristique amusante au Monde, on n'a pas le droit de signer de pétition. Ça nous est interdit. C'est normal.
Alors que la Tribune de l'Art, nous pouvons signer des pétitions.
Voilà. Mais c'est normal parce qu'on ne peut pas, en notre nom propre, mettre en cause le nom du journal ou se prévaloir du nom du journal.
Moi, je ne gêne pas pour la Tribune de l'Art.
Pour signer une pétition, mais vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être candidat à les élections, pour les mêmes raisons. Et je pense que l'erreur de Fermigé a été de signer une pétition. Voilà, c'était
aussi simple que ça. Mais alors quand on se déclare pour aussi fortement pour un projet, que ce soit peu importe, on prend la tortille, ça pourrait être n'importe quoi. Et l'idée n'est pas du tout de. Mais on se déclare pour. C'est comme si on signait une pétition. Il y a des pétitions actuellement qui circulent sur Internet pour la tour triangle, contre la tour triangle. Quand on écrit de manière claire qu'on est pour la tour triangle, on prend position, ce qui n'est pas choquant, encore une fois.
Oui, mais dans le journal, c'est-à-dire
c'est ça, dans le journal, c'est ça.
Il y a une relecture, bien sûr. On n'est pas censuré, mais il y a une relecture. Frédéric Edelman, puisque vous parlez de lui, a quand même derrière lui quelques années qui permettent de travailler, je veux dire, qui permettent de
prendre. Ses compétences, c'est pas mise en cause, c'est juste
de prendre en compte son opinion. Mais c'est son opinion.
D'accord. Donc c'est pas l'opinion du monde.
C'est pas un éditorial.
C'est pas un éditorial. Le passage du monde au numérique, est-ce qu'on peut en parler également? C'est un des questions qui taraudent la Tribune de l'Art, non, puisqu'on est numérique depuis le départ, on est pure player, comme on dit, mais on constate que la presse a besoin d'aller sur Internet. Pour la culture, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut...
Ça se passe formidablement bien. D'abord, parce qu'on a des jeunes que je découvre avec ravissement, qui sont réellement très compétents et qui font du très bon boulot. Et puis, ça permet d'ouvrir. Souvenez-vous, vous venez nous voir au journal, on a des facsimilés des unes de 1944. C'était chouette, mais c'était un peu austère. Là, on peut ouvrir les portfolios, on peut ouvrir les vidéos, on peut décliner un sujet, faire des liens. Enfin, pour moi, qui je vous rappelle, en 1926, travailler avec un ordinateur Sinclair qu'on montait soi-même et qui avait pour mémoire un radiocassette, une même cassette magnétophone, c'est du bonheur.
Et vous-même, vous écrivez des fois spécifiquement pour le net?
Oui, bien sûr. On est bimédia. C'est vraiment la norme. Aujourd'hui, quand j'envoie un papier, on a un nouveau système qui nous permet de traiter nos papiers et qui est très performant. Et on envoie un papier, on ne sait pas où il va paraître. S'il va être dans le web, dans le papier, ou dans les deux, ou ailleurs, on ne sait pas.
Alors, ce qui est parfois un petit peu gênant, c'est que des fois, quand on va sur Internet, on ne sait pas si le papier est paru uniquement sur le web ou sur le papier également. Est-ce que c'est juste une suggestion d'amélioration? Ce serait intéressant de savoir si on le retrouvera sur le papier ou pas.
On peut suggérer ça, effectivement. Je le transmettrai. Mais ça n'a aucune importance.
Pourquoi?
Parce que dans 10 ans, le papier, vous n'en aurez plus.
Vous pensez qu'effectivement, c'est intéressant, vous pensez que le papier aura disparu dans 10 ans?
On tire à quelques centaines de milliers d'exemplaires aujourd'hui. Je pense que si dans 10 ans, on devrait tirer à une centaine de milliers d'exemplaires en papier.
Donc c'est une évolution qui est déjà prise en compte dans la stratégie du journal. Oui. Passons maintenant à... Vous disiez tout à l'heure que vous étiez allé aujourd'hui à Lens, donc pour voir, il y avait une exposition... Pour manger des frites, c'est une chose. Pour voir une exposition également, vous avez raison, les frites, je crois, sont très bonnes en face du Louvre-Lens.
Les seuls qui les font encore cuire la graisse de bœuf.
Comme les Belges.
Voilà.
Et donc, l'exposition est sur l'Égypte, donc c'est pour ça que je ne suis pas allé où personne de la Tribune de l'Art n'y est allé, puisque l'Égypte sort de notre champ, pour l'instant en tout cas. Il n'est pas exclu qu'un jour, il y a un autre site consacré à toute l'Antiquité. J'ai pas voulu non plus y aller parce que je sais qu'on change un certain nombre, on ramène un certain nombre d'œuvres du Louvre. Tout le monde sait ce que je pense de cette galerie du temps.
Qu'en pensez-vous?
Vous lisez la Tribune de l'Art, c'est moi qui interview ici, cher Harry. Qu'en pensez-vous, vous, de cette galerie du temps? Pas d'exposition, parce que la dernière exposition était plutôt bonne, c'était une exposition sur les malheurs de la guerre. Moi, je l'avais bien aimé. Moi, j'étais aujourd'hui, finalement, je suis allé avec la RMN au musée Magnin, où il y a une exposition Bon Boulogne, que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est beaucoup plus confidentiel, mais c'est vraiment très bien, je vous la conseille également. Et que pensez-vous, justement, je sais que nous ne sommes pas d'accord, nous en avons déjà discuté avec certains sujets, c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ou avec moi. c'est de savoir un peu, qu'est-ce que vous pensez du Louvre, de la délocalisation du Louvre, à Lens, à Abu Dhabi également. Et est-ce que sur ce plan-là, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des articles dans Le Monde ont été plutôt pour ou contre, plutôt neutre, je crois.
Mais plutôt neutre parce que c'est de l'information. En l'occurrence, on ne va pas s'amuser, nous, à éditorialiser sur le Louvre-Lens. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il existe, ou qu'il ait été programmé, ou qu'il ait été pensé, par qui, pourquoi, c'est de l'info, quoi.
Mais on peut avoir une idée, on peut avoir une impression, parce que c'est quand même nouveau par rapport à...
Après avoir donné l'info, là, on a le droit d'avoir une idée, mais encore, Personnellement, j'ai tendance à préférer laisser le lecteur se faire son idée lui-même, du moment que je lui ai donné les informations qui lui permettent, je crois.
Alors, dans ce cas-là, revenons aux articles qui sont, par exemple, on parlait des articles sur la tour triomphale. Là, en revanche, il y a. C'est pas logique. Soit on prend parti, soit on prend pas parti. On peut prendre parti. Je pense, moi, je suis pour.
Frédéric Adelman a pris position pour un truc. Mais là, non, on est dans autre chose. On est dans une tendance lourde de certains musées, mais. À s'étendre, ou plutôt à faire valoir leur connaissance, leur travail. Le faire valoir contre rémunération dans le cas de Abu Dhabi, le faire valoir peut-être plus dans un sens social et avec la ville de Lens pour ouvrir un atelier d'artistes, où les artistes viendront en résidence, il y a encore d'autres éléments qui vont se grouper. Il y a une fédération qui est en train de se faire autour des musées du Nord, Pas-de-Calais et tout ça. Mais concrètement, depuis que le Louvre-Lens est ouvert, il rapporte 10% de la ressource produite dans la région.
Alors ça, ce sont des chiffres que vous avez pu vérifier vous-même ou bon, on vous les a donnés?
On me l'a donné ce matin. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, vous m'en pardonnerez. Mais 10%, ce n'est pas banal. Mais cela dit, ce n'est pas totalement étonnant. Je veux dire, si Paris est visité de temps en temps par quelques touristes, c'est parce qu'il y a effectivement le Louvre aussi. C'est parce qu'il y a le Centre Pompidou. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de regarder couler la Seine. Donc, créer des institutions culturelles dans une région, c'est du boulot. Et je comprends, de la part du président de la région, qu'il en soit soucieux. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est très agréable de faire une heure et demie, une heure de TGV pour aller voir le Louvre à Lens, alors que...
Une heure plus le déplacement jusqu'au musée, parce qu'il n'y a pas tout près.
À pied, 12 minutes.
12 minutes, vous avez compté ?
Je les ai fait. Ou est-ce que ce serait mieux de prendre sa voiture ou le métro pour venir de son... Non, c'est pas grave.
Je pense que vous vous trompez, parce que les gens qui sont à Clermont-Ferrand ou qui sont à Pau ou qui sont à Rennes mettent plus
faux.
De temps
c'est
que...
C'est pas faux, vous avez raison.
Pour venir, pour,
c'est, que, pour... c'est pas faux, mais après tout, c'est pas très grave non plus. Non. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Louvre est un musée surdimensionné, par nature. Et quand on le voit, quand on voit le choix que font les conservateurs du Louvre des œuvres, des 200 œuvres qui vont exposer de leur collection, on a une sorte de résumé. Résumé qui, alors je l'ai constaté encore aujourd'hui, sert énormément aux enfants. Emmener les enfants au Louvre, essayer de leur apprendre l'histoire de l'art en 2 heures, c'est un peu court.
C'est impossible.
Avouez-moi passer un peu plus de temps que ça, mais quand même, une première approche. Et ben là, ça marche, parce qu'ils ont fait un très beau boulot. Et alors, j'étais très réticent sur le premier accrochage et l'ouverture, les chocs visuels étaient terribles. Là, ils se sont plutôt améliorés. J'aurais presque envie de dire...
Par exemple, vous avez des exemples?
Ah oui, j'ai un exemple très précis. Là. C'est le point le plus terrible pour un... je sais que j'ai travaillé dans les musées. Donc, le point le plus terrible, c'est la dernière partie où on finit avec un mur et où, je ne sais pas pourquoi, depuis 3 ans, ils décident de mettre des tableaux plutôt romantiques, de la croix la première fois, Ingres maintenant. Mais sur le côté droit... Il y a toujours un tableau persan. C'est vrai que quand vous mettez un tableau persan, quelle que soit sa qualité, du 19e à côté d'un Delacroix du 19e, c'est un peu choquant visuellement. Là, ils ont réussi à le rendre à la fois intelligible et visible sans que ça perturbe. Je pense qu'ils sont en train
de s'améliorer.
D'apprendre.
D'accord.
Parce que vous savez, c'est pas la nature du Louvre. D'exposer, faire des expositions pluridisciplinaires. Ce musée est divisé en grands départements et ils ne sont pas du tout habitués à ça. Je crois qu'ils apprennent et c'est vraiment très bien.
Et l'exposition Égypte, deux mots simplement, est-ce qu'elle est bien?
Oui, elle est intelligente.
Bon. Alors maintenant, vous n'avez pas parlé d'Abu Dhabi.
Vous m'avez pas posé de question.
Bah, je vous la pose. Et vous remarquerez d'ailleurs que, effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Harry Bellet sur le Louvre-Lens, mais ce n'est pas le lieu de débat. C'est intéressant d'avoir des avis différents, et la Tribune de l'Art laisse également des avis différents s'exprimer.
Mais il ferait beau voir.
Allez-y pour le Louvre Abu Dhabi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous-même, personnellement?
Mais j'en pense rien, il n'existe pas encore.
Vous êtes allé sur place?
Oui, bien sûr.
Et vous avez vu le lieu? Est-ce que c'est... Vous n'en pensez rien encore?
Mais non,
rien. Non, mais en fait, le principe, quelque chose de principe. Bah, de louer les collections, par exemple, c'est quelque chose qui ne vous choque pas. Le fait de faire un musée dans un pays qui n'est que la France.
Attendez, louer les collections, c'est un choix politique.
Oui.
C'est lorsque M. Baldassari l'a fait pour ramasser 30 millions d'euros dans ce qui a constitué l'essentiel du financement du musée Picasso, lorsque le Louvre le fait aujourd'hui, ça a toujours été avec l'aval du ministère de la Culture. C'est pas une décision individuelle d'un conservateur dans 5 ans.
On est complètement d'accord. Voilà. On est complètement d'accord. Bon. C'est bien le problème. C'est-à-dire que tout ce qui est fait avec l'aval du ministère de la Culture. Et c'est bien le ministère de la Culture et plus généralement l'État français, le gouvernement français qui est peut-être mis en cause.
Non, c'est le fonctionnement normal de la fonction publique. Oui. Il ne viendrait pas à l'idée de quiconque dans un musée de louer ses œuvres sans demander l'avis de son autorité de tutelle, c'est logique.
Oui. Donc,
Et si l'autorité de tutelle n'a plus de sous, ce qui est un peu le cas.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ce qui n'est pas le cas. Les budgets, c'est une question de choix. Là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il n'y a plus de sous. Il y a plus de sous pour certaines formes de culture et puis il y en a d'autres pour l'autre. Donc c'est un choix. J'avais ici
Donnez-moi un exemple. De ministre qui a beaucoup d'argent.
Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, j'ai dit qu'il y avait encore de l'argent au ministère de la Culture. Mmh. Parce que même avec 10% ou 8% en moins pour le patrimoine, il reste beaucoup d'argent. Parce que globalement, je crois que c'est 2, 3, 4% en moins d'un ministère dont François Hollande, je ne fais pas de politique, mais là c'est quand même assez gros, avait dit qu'il le sanctuariserait. Et il a beaucoup diminué, mais dedans, ça reste beaucoup d'argent. Et après, on peut faire des choix. On a fait des choix au ministère de la Culture.
Vous savez,
on a fait des choix au ministère de la Culture de diminuer 10% pour les monuments historiques et de diminuer moins pour d'autres. Donc c'est un choix.
Oui, bien sûr. Mais vous savez que le poids qu'a le spectacle vivant dans le ministère. Vous savez le poids qu'ont les grands établissements publics, l'Opéra de Paris.
On leur coupe beaucoup les vivres. Hein,
mais c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Le fonctionnement de l'Opéra de Paris, vous savez, quand vous allez à l'Opéra, votre place est subventionnée aux deux tiers par le ministère.
Je sais.
Bon. Ouais. Le Centre Pompidou, le Musée du Louvre, ça coûte cher. Ouais. Bon. Et vous savez, le fait que si vous fâchez un peu les intermittents, ça ne va pas aider non plus les spectacles de l'été, ni arranger vos vacances. Donc effectivement, il faut faire des choix, mais on n'a plus tout simplement les moyens de... J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup d'amis dans des pays où l'aide de l'État n'est pas de ce niveau. Quand ils regardent ce qu'on fait en France, ils sont à la fois sidérés, un tout petit peu envieux, mais ils ne comprennent pas comment on fait. Et ils ont raison.
Quel pays ?
Les États-Unis notamment. Les États-Unis notamment, c'est, on est tous fascinés par les États-Unis. Quand vous parlez de ça à des Américains, et ils vous disent, mais vous ne vous rendez pas compte du bonheur que vous avez en France, des musées que vous avez en France, c'est fantastique.
Il y a de très beaux musées aussi aux États-Unis.
Financés
par les privés, avec beaucoup de déductions fiscales d'ailleurs.
J'entends bien, mais il y a de très beaux musées, mais vous n'aurez pas... Vraiment, ce qui nous a sidérés, par exemple, à la rentrée de septembre-octobre, c'est qu'on a constaté, alors qu'on voyage tous beaucoup, que Paris, sans être une capitale de l'art, faut pas... non plus rêvé, avait l'offre culturelle la plus abondante qu'on n'ait jamais vue ailleurs.
Je suis d'accord avec vous, par exemple, les expositions, je ne connais aucune, je l'ai écrit d'ailleurs, il n'y a aucune capitale à ma connaissance, même Londres, même New York, qui a au même moment autant d'expositions.
Et dans le même temps, vous aviez les expositions à Lille, vous aviez les expositions, peut-être à Lens.
À Lens également, oui, tout à fait.
Et donc, grosso modo, à une heure de train de la gare du Nord, c'est exceptionnel.
Alors, poursuivons, parce que j'aime bien, c'est intéressant, je suis un petit peu masochiste, finalement, je vous interroge que sur les sujets sur lesquels je sais que nous ne sommes pas forcément d'accord, et vous exprimez, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure d'Anne Balassari du musée Picasso, on n'est pas complètement d'accord sur ce qui s'est passé. Moi, je pense que le problème du musée Picasso, c'est qu'on n'a pas fait partir Madame Baldassare suffisamment tôt. Vous vous dites que le problème, c'est qu'on l'a fait partir, et dans de mauvaises conditions. C'est vrai que les conditions étaient quand même un petit peu au dernier moment, c'est vrai. Donc, vous avez trouvé, vous, que la politique qui était faite dans les dernières années était bonne pour le musée Picasso?
Vous parlez de la politique du ministre de la Culture?
Je parle de la politique du musée Picasso, validée par le ministère de la Culture.
Oui.
Validée par le ministère de la Culture, voilà. Qui ne peut absolument pas se dédouaner. Non,
mais
bien sûr.
Vous avez répondu à votre question.
Bon, bah, très bien.
Validée par le ministère de la Culture.
Ah oui, tout à fait. Oui. Bah, ça, le ministère de la Culture est responsable de tout ce qui se passe dans les musées, on est bien d'accord. Mmh. Bon. Une autre chose pour laquelle je ne suis pas du tout... alors là, on pense qu'on sera certainement d'accord, parce que... On sait que c'est très difficile, vous êtes spécialiste d'art contemporain, enfin d'art 20e et je pense aussi d'art contemporain. Vous connaissez beaucoup d'artistes, il est très difficile, ça je le regrette, et ça ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne. C'est actuellement le débat sur l'art contemporain est un peu, je pense, vicié, parce qu'on a l'impression qu'il y a des polémiques et que soit on est contre, on n'aime pas certains artistes ou certaines œuvres contemporaines, on pense qu'elles ne doivent pas être mises dans certains endroits. Et là, on est tout de suite traité de fasciste, etc. Et parce qu'il est vrai que des partis extrêmes ou des extrémistes s'opposent systématiquement à ça. Et inversement, on a l'impression qu'il y a des gens des deux côtés, certains qui, tout ce qui est d'art contemporain, c'est nul, ce qui est absurde, c'est une position complètement absurde et que je condamne complètement. Et de l'autre côté, des gens pour qui tout ce qui est contemporain est forcément formidable. Est-ce qu'il est possible encore de parler d'art contemporain et de dire qu'on n'aime pas l'art contemporain? Je pense que vous allez répondre que oui, mais j'ai l'impression, et en tout cas vous le faites certainement, mais j'ai un peu l'impression, prenons un exemple, moi je ne suis pas rentré du tout dans le débat sur le plug de Paul McCarthy, que j'ai découvert.
Un sapin de Noël.
Voilà. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je ne savais pas, excusez-moi, ce que c'était censé représenter, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai trouvé ça
J'ai plus souvent vu des sapins de Noël que des plugs.
Voilà, moi aussi, c'est pour ça que je pensais. Je ne pensais pas à un sapin, je pensais que c'était une forme un petit peu indéterminée. Bon, bref. Est-ce qu'il fallait vraiment mettre cette œuvre de Paul McCarthy sur la place Vendôme? Est-ce qu'on a absolument besoin de mettre l'art contemporain en confrontation avec l'art ancien pour le faire valoir? Je ne suis pas certain. Voilà, je trouvais ça pas très beau, c'était temporaire, ça n'avait aucune importance. Après, il y a eu cette polémique, donc finalement, et puis cette l'agression contre Paul McCarthy, dont certains disent qu'elle a été montée, je crois que vous êtes témoin qu'elle n'était pas montée, en fait. Donc voilà.
Alors, avait une journaliste sur place,
voilà, c'est ça,
effectivement.
Voilà, donc.
Il n'a pas besoin de ça.
Mais voilà, exactement. Donc, ouais. De toute façon, donc, l'agression, c'est complètement inqualifiable, etc. Donc, on a eu d'un côté des extrémistes qui, de toute façon, étaient prêts à partir en guerre, et puis de toute façon, c'est formidable parce que c'était moderne, et que si on n'aime pas ça, on n'est pas moderne. On a l'impression qu'il n'y a plus la place à simplement être raisonnable et donner son opinion clairement et d'une manière mesurée. Est-ce que c'est encore possible?
J'ai peur que non. J'ai peur que non. Je partage votre analyse là-dessus. C'est dommage de ne pas pouvoir discuter de... Est-ce que c'est un sapin ou est-ce que c'est autre chose?
On peut ne pas aimer Paul McCarthy sans être un fasciste, voilà ce que je veux dire.
Est-ce que sa place était sur une place Vendôme, laquelle est, je vous rappelle, très en travaux en ce moment.
C'est clair, bon, c'est clair, et pas très belle en travaux.
Pas dire qu'il détruisait vraiment la vision du patrimoine, en plus d'une œuvre éphémère.
C'est tout à fait vrai. En plus d'éphémère, donc personnellement, voilà, jamais j'aurais contesté contre ça. Franchement, vraiment, je n'aimais pas beaucoup ça, mais bon.
Mais il faut remonter quand même un peu plus loin. Souvenez-vous de l'impératrice souffletant de son éventail, si ma mémoire est bonne, c'était le déjeuner sur l'herbe. Souvenez-vous de Adrien VI, pape succédant à Léon X, vous ne l'avez pas oublié celui-là.
Non, parce qu'on en parlera, c'est dans votre. Voilà. Ces deux papes, l'un est dans un de vos romans et le deuxième sera dans le prochain.
Arrive. Donc, quand Adrien VI, qui était le premier pape, le dernier pape étranger, non italien, je veux dire, avant Jean-Paul II, succède à Léon X, mort en 1521, il arrive dans la Sixtine, il voit les Michel-Anges et il dit « on se croirait dans une étuve », ce qui dans le contexte de l'époque veut dire « dans un bordel
bon. ». C'est historique?
Oui.
Oui, parce qu'après, il a fait venir le braquetonné,
il est historique. Et Michel-Ange, pour certains de ses contemporains, était aussi choquant, et je le comprends, que McCarthy peut l'être aujourd'hui.
Oui, mais attention, la comparaison n'est pas raison. Et je prends l'exemple toujours de la Tour Triangle qui en ce moment me préoccupe un petit peu. On vient dire qu'on n'a pas le droit d'être contre la Tour Triangle parce que si on est contre la Tour Triangle, on était avant contre la Tour Eiffel. Et donc, ce n'est pas parce que certains étaient contre la Tour Eiffel qu'on n'a pas le droit d'être contre la Tour Triangle. Non, c'est pas, on peut critiquer.
Il m'arrive de lire la tribune là.
Excellente lecture.
J'ai lu vos arguments ce matin. C'est pas du tout la même chose. Ce que je veux dire, c'est que on croit à tort que l'art est en dehors de son temps. Les artistes contemporains, Michel-Ange a été un artiste contemporain.
Bien sûr.
Bon.
Bien sûr.
Et il a été un artiste contemporain qui a pu choquer ses contemporains.
Mais qui a quand même travaillé pour les papes, donc il n'était pas trop...
Oui, mais il n'a pas travaillé pour Henri VI. Eh oui. Il a fallu attendre que Jules II revienne. Arrive.
Non, non. Henri VI n'est pas resté très longtemps, je crois.
Il est mort très tôt. Il est mort très tôt et il aimait tellement pas l'art que les Romains sont allés, lors de sa mort, fleurir la façade de son médecin. Et ça aussi, c'est historique.
De quoi pourrait-on parler là? Nous avons parlé de différents... Voilà, donc on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est pas grave, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir débattre, et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir. Le marché de l'art, vous êtes aussi un spécialiste du marché de l'art, on se voit régulièrement à la foire de Maastricht, vous allez plus dans l'art 20e, je vais plus dans l'art ancien, mais on se retrouve souvent pour bagnoder, j'allais dire, dans les... ou se promener dans ces... Maastricht qui est quand même une des plus importantes foires. Quel est le marché de l'art? Alors, le marché de l'art contemporain, bien sûr, on a un peu l'impression actuellement qu'il y a, mais comme régulièrement, des bulles. Mm-hmm. Vous parlez de l'exposition Jeff Koons, ça se vend quand même très très cher.
Non,
et quel que soit...
on peut avoir un Jeff Koons pour 500 euros.
On peut avoir, oui, un multiple.
Oui.
Oui, un multiple. Une œuvre unique.
Si vous voulez vraiment
ou
un Jeff
deux ou trois,
Koons,
oui.
Vous pouvez l'avoir pour 500 euros.
Par exemple, on peut voir quoi?
Bah, à peu près les mêmes, mais en résine.
D'accord. Et si on veut, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parfois un peu excessif, quel que soit ce que...
500 euros?
Non, pas 500 euros, 10 ou 15 ou 20 ou 50 millions, 50 millions d'euros.
50 millions de dollars, le record. Évidemment, c'est excessif. Bon, puisque vous parliez de plug, il faut quand même se rendre compte que le marché de l'art mondial, la totalité du marché de l'art mondial, c'est à peu près deux fois le montant du marché des sex toys mondial.
Vous êtes bien renseigné.
Oui, j'ai un peu travaillé le sujet. C'est pas grand-chose. Grand-chose. Il y a un économiste américain qui s'appelle Don Thompson qui a fait un livre il y a 3-4 ans qui partait du requin dans le formol de Damien Hirst. Un vrai requin plongé dans le formol.
Qui se conserve d'ailleurs très mal. J'étais frappé d'en voir un à mon un musée. Il commençait à...
Et ils l'ont changé.
Ils ont changé le requin?
Ben oui, pas très grave.
Ben si, les requins sont en voie de disparition.
Non, pas ceux qu'on pêche au large de l'Australie. Ils sont contents de les voir disparaître. Mais ils ont changé. Bon, 12 millions de dollars achetés par un gestionnaire de hedge funds qui s'appelle Steve Cohen. 12 millions de dollars, ça paraît aberrant. Don Thompson précise un truc. Et ça, c'est important. C'est que 12 millions de dollars, c'est 4 jours de revenus de Steve Cohen. Revenus, pas capital. Imaginez ce que vous gagnez sur 4 jours.
Non, pour lui, c'est pas cher.
C'est pas cher. Il faut comprendre ce que veut dire être riche aujourd'hui.
Mais alors, justement...
C'est ça. Je crois que fondamentalement, si vous voulez comprendre le marché de l'art contemporain, il faut vraiment prendre conscience de ce que les riches aujourd'hui sont vraiment très riches. Ce qui n'est pas nouveau non plus. Allez vous promener à Rome dans certains palais privés, construits au début du XVIIe, et vous verrez ce que c'est que d'avoir été riche au XVIIe et que vos héritiers sont encore riches aujourd'hui. Je pense à la princesse Pallavicini,
Colonna, etc.
Ouais, ouais. C'est exceptionnel, les fortunes qui se sont accumulées dans ces années-là, et bien plus exceptionnelles que celles qui s'accumulent aujourd'hui, parce qu'elles sont encore fonctionnelles. Hmm. Non, il faut bien comprendre une chose, c'est horrible à dire, mais l'art contemporain, qu'il soit fait par Michel-Ange ou par Jeff Koons, c'est pas fait pour les petites bourses.
En revanche,
Jeff Koons, si. Oui. Vous pouvez en avoir pour 500 euros.
Effectivement.
Si ça vous intéresse.
Très bien. Alors, maintenant, on a parlé donc de Harry Belay et de son œuvre journaliste, historien de l'art, mais également romancier, puisque vous êtes romancier et que j'ai lu vos livres. J'ai lu vos romans, je crois à peu près tous. Vous avez en fait une première série qui était avec un héros un petit peu James Bond.
Non, non, il était assureur.
Oui, assureur, mais enfin, il se comportait un peu comme James Bond. Sauf qu'il avait peur en avion comme vous, je crois.
Oui, bien sûr. On est parfois un peu autobiographique dans nos romans. Non, ce qui était amusant, c'est que ça me permettait de...
Dans le milieu de l'art, dans le milieu bien sûr. Bien sûr. Si j'en parle, c'est ça, dans le milieu de l'art.
Et ça me permettait de raconter des choses que je ne peux pas écrire au journal.
Et je crois même que vous avez réglé certains comptes dans un de vos romans, on ne peut pas dire... où vous tuiez certaines personnes.
Ah, mais je tue énormément. Je ne sais pas si vous avez vu ce film que jouait Belmondo, qui s'appelle Le Magnifique, pauvre auteur fauché qui tue son éditeur chaque fois qu'il ne veut pas lui donner une avance. Oui,
vous avez fait pareil.
Ben oui, c'est un petit plaisir, ça. Oui, bon. Je n'ai pas tué mon éditeur. Non, mais c'était... Par contre, ce qui était important, c'est important.
Rappelez-nous les titres de vos romans.
Le premier s'appelait L'affaire Dreyer. Sont tous partis de faits divers réels. Hein. Je n'ai pas d'imagination.
Ils sont très drôles à lire, hein, je veux le dire, que moi j'aime beaucoup.
Merci. Le premier s'appelait L'affaire Dreyer.
Pas forcément à mettre entre toutes les mains, en revanche.
J'espère que non. Et le deuxième, ça s'appelait Carré Noir, où nous volions à Malevitch. Et le troisième s'appelle Passage du Vent.
Ils sont édités chez qui ?
Robert Laffont.
Ils ont leur poche ?
Les deux premiers, oui. Ça permet de raconter, puisque je parle de marché de l'art dans ces lieux-là, des choses qu'on peut tout simplement pas écrire en journal parce qu'on n'a pas les moyens de le prouver et qu'on irait en prison.
Et donc il y a des personnages qui existent vraiment ?
Bien sûr, tous. Ou pratiquement tous.
Un autre roman, c'est votre dernier, j'allais dire le dernier paru, mais vous préparez déjà, ça sera une trilogie, je crois.
Oui.
Vous préparez le second, le deuxième, pardon, donc, puisque c'est une trilogie, soyons précis. Alors, redonnez-moi le titre, parce que je n'arrive pas à le retenir.
Alors, je vais prendre ma respiration, parce que même mon éditeur trouvait que c'était un peu long. Et encore, il a supprimé la première partie qui était en latin. Donc, je vous le fais comme ça. Les aventures extravagantes de Jean-Jean Becreuse, artiste et bourgeois de Bâle, assez gros fabliaux.
Alors, j'ai lu ce livre, ce roman, c'était déjà un petit peu plus d'un an ou deux, donc je ne l'ai pas relu pour l'occasion pour vous inviter, ce qui n'est pas très professionnel de ma part. Mais,
je ne vous le fais pas dire.
Mais je peux dire que c'est un roman historique excellent, qui lui-même n'est pas toujours à mettre entre toutes les mains, parce que les papes ils font des choses pas forcément très recommandables.
Pas que les papes,
d'ailleurs. En fait, c'est l'histoire de Hans Holbein.
C'est vrai, je suis vraiment...
Et Jean-Jean Creuse, pourquoi ?
Parce que Holbein...
Traduction littérale de Holbein. Oui. Donc c'est l'histoire de Hans Holbein. Dites-nous en deux mots, rappelez-nous en deux mots, ça part avec le pape qui recherche un... Ça commence avec le pape, si je me rappelle bien.
Non, ça commence avec Gérard Depardieu. Alors, si je vous raconte la genèse, autant le faire jusqu'au bout. Il y a des années de ça, quand je suis allé pour la première fois au Kunstmuseum de Bâle, qui conserve pratiquement l'essentiel de l'œuvre de jeunesse de Hans Holbein. Je suis tombé devant le portrait qu'il a fait en 1516, il devait avoir 17 ou 18 ans à l'époque, du maire de Bâle de l'époque, Jacob Meyer, premier maire à n'être pas issu de la noblesse. Et on se rend compte de quoi ? C'est que c'est très pour très Gérard Depardieu, enfin il y a quelques années hein, quand même, il a un peu changé depuis. Je parle de Gérard Depardieu, pas de Jacob Meyer.
Il a changé aussi depuis, je pense.
Ça m'avait sidéré. Je me dis, c'est merveilleux, il faut faire un film, je ne sais pas faire de film. Donc ça, je fais autre chose entre-temps. Et puis un jour, où, après mes trois romans policiers, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et comme j'étais parti sur ce genre de personnage excessif, comme Gérard Depardieu sait l'être, et que Hans Holbein, on le sait, puisque tout ce qu'on sait de lui, je l'ai strictement respecté.
Simplement extrapoler les dialogues,
Tous les événements auxquels je le mêle, il s'est battu, on a les preuves, à Lucerne en 1517, contre un orfèvre, à coup de couteau.
La mort de Léonard de Vinci, si je me rappelle,
Non, mais par contre, au moment de la mort de Léonard de Vinci, le 2 mai 1519, si ma mémoire est bonne, on ne sait pas où est Hans Holbein. Donc personne ne peut me dire que ça ne s'est pas passé.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Rassurez-vous, j'ai fait toute une postface, je me suis beaucoup amusé à faire cette postface où j'explique qu'effectivement, c'est peu probable que Léonard de Vinci soit mort dans les bras de Hans Holbein. Mais en tout cas, on sait par contre qu'il n'est pas mort dans ceux de François Ier. Voilà. C'est très, très amusant à faire.
Et vous vous êtes beaucoup documenté, vous êtes régulièrement en Suisse. Je crois que vous m'aviez raconté que vous alliez sur place et que vous vous promeniez dans les rues, que vous essayez de voir où vous pouvez passer.
Avec un plan de l'époque.
Ça a beaucoup changé, Bâle, depuis.
Oui, pas le parcellaire. Les bâtiments, oui, mais pas le parcellaire. Le parcellaire est resté le même.
Et donc, vous préparez maintenant le deuxième?
Oui. Et le troisième.
Et le troisième en même temps?
Oui.
D'accord. Oui. Et il est paru quand le premier? C'était il y a...
Mars.
Et on peut espérer que le deuxième paraîtra?
Aucune idée.
Ah bon? Votre éditeur ne va pas être content de savoir ça?
Il le sait déjà. Non, je laisse venir. J'ai pas d'obligation là-dessus.
Et vous avez déjà dans votre tête tout le déroulement de ça?
Il est simple. C'est la ville en seul même. Je sais qu'il est mort en 1543. Il va mourir en 1543. Entre-temps, il a fait deux ou trois petites choses. Là, celui sur lequel je travaille le plus, donc le deuxième, se passe à la fois pendant la guerre des paysans, mal connue en France d'ailleurs, sauf en Alsace.
Vous pouvez nous le développer un petit peu.
En 1525, il y a eu une révolte de paysans en Alsace et en Basse-Allemagne, en Souabe. 100 000 morts. Pour vous donner un ordre d'idée, Marignan, c'est à peu près 16 000. Ça a été terrible.
Et ces paysans se révoltaient donc contre...
Ils se révoltaient contre les nouvelles taxes. En fait, plus ou moins, c'est un peu les bonnets rouges. Mais
il y a moins de morts avec les bonnets rouges, heureusement.
Oui, heureusement. Dieu merci, on a un peu évolué. Mais ils se renouvelaient contre les nouvelles taxes qui n'étaient pas, parce qu'ils s'appuyaient sur la relecture de la Bible que faisait Luther au même moment, qui n'étaient tout simplement pas inscrites dans la Bible. Et donc, la révolte du Bunchu, comme on l'a appelé, la chaussure à lacets, le slogan, c'est « Rien que la justice de Dieu ». C'est pas dans la Bible, j'ai pas à le faire. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne nous l'apprenne pas dans les écoles en France. Les Alsaciens, eux, le savent, mais à Paris, on ne le sait pas. Bon. Dans le même temps, il y a le passage de la réforme, de Bâle à la réforme, enfin, de manière générale, de la moitié de la Suisse à la réforme. C'est pas très, très facile à rendre sexy dans un roman.
Discussions
théologiques entre Zwingli, Kelampad et Luther, je vous raconte.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous l'écriviez dans une langue qui est un peu celle de l'époque. En étant lisible, je rassure les auditeurs, on peut le lire très bien sans connaître. C'est plus facile à lire que Rabelais.
Oui, d'abord, Rabelais, c'est impossible.
Dans le texte, c'est très compliqué.
Je relis régulièrement Rabelais, y compris dans le texte. Rabelais met dans sa même phrase du patois provençal, du bas allemand et un petit peu de picard. Non, c'est autre chose. Ce qui est formidable, c'est que c'est le moment, le XVIe siècle, où la langue française se constitue. Elle se crée, elle se fige, elle se fixe. Et là, pour ça, on n'a que du bonheur. On trouve des mots, mais qui ont une saveur, presque une odeur, j'allais dire, dont on a un peu perdu l'habitude aujourd'hui, qu'on est tous très consensuels. Mais quand vous tombez sur les proverbes de Bonaventure des Perriers, Rabelais, c'est bien, mais il y en a d'autres. Bonaventure des Perriers. Il faut se défier de l'avant d'un bœuf, de l'arrière d'une mule et de tous les côtés d'un moine.
Effectivement. Bon. Et vous trouvez ça, vous lisez tout ce qui concerne cette époque, vous avez fait, vous faites
oui,
comment
oui, ouais. Oui, je lis beaucoup. Oui.
Vous trouvez le temps?
Oui, je trouve le temps.
C'est bien.
Je trouve le temps. Et puis je dois saluer, resaluer et re-resaluer Internet, parce que l'accès à Gallica, c'est
extraordinaire.
Les bibliothèques jusqu'aux États-Unis me transmettent gratuitement le livre de Chamberlain sur Hans Holbein, deux volumes publiés en 1913. J'ai trouvé les deux volumes dans deux bibliothèques différentes aux États-Unis.
Je confirme, Internet, c'est très très bien.
Mais oui, c'est formidable.
Et est-ce que vous avez...
C'est un livre qui n'aurait pas pu exister avant Internet.
Est-ce que vous avez définitivement abandonné votre héros assureur ou est-ce qu'il reviendra pour de nouvelles aventures? Je crois me souvenir qu'il était du côté de Guantanamo quand vous l'avez...
Oui, il est très bien à Guantanamo.
Il est enfermé à Guantanamo, je crois.
Non, il est sorti. Mais il n'est pas en très bon état. Puis, oui. Non. Si vous voulez, ça me permettait de raconter le marché de l'art d'une époque qui a été celle que j'ai vécue en tant que journaliste. Bon, ça y est, c'est fini. Je n'ai pas passé ma vie sur le marché de l'art non plus. Le XVIe siècle, c'est beaucoup plus drôle.
Et alors, aucun de ces livres
n'a pas le... Mais vraiment beaucoup plus drôle.
Donc, vous avez déjà des idées pour après-trilogie?
Attendez, Laissez-moi un peu de temps.
D'accord. Et pour l'adaptation cinématographique, parce qu'elles sont assez cinématographiques, vos livres.
Oui, mais Spielberg ne m'a pas encore appelé.
Et Depardieu, non, Depardieu n'a pas postulé pour le rôle.
Je détesterais vraiment pas ça, mais je crois qu'il est encore un peu jeune pour ça.
Bon. Écoutez, Harry Bellet, merci beaucoup pour être venu nous parler avec votre humour légendaire, j'allais dire, de votre vie et de votre œuvre. Et merci beaucoup. Donc, je donne rendez-vous la semaine prochaine